À Rencontre spirituelle aujourd'hui, il sera question d'une esclave du Soudan. Vous savez, on en parle beaucoup dans les journaux. Vous avez dû voir, là, le 1er février de ce mois, il était question des enfants esclaves, une réalité du Soudan, le Soudan, en Afrique, ça fait bien loin. Puis on se dit, ah non, pas encore une autre histoire d'enfants qui meurent de faim. On en voit à la télévision depuis tant d'années qu'on ne sait plus quoi penser. Eh bien, dans cette nouvelle du 1er février, on nous disait bien que c'était l'affirmation du père québécois Armand Gagné de Granby, un trinitaire, qui disait « Ce n'est pas facile de parler d'esclaves au Québec, on n'arrive pas à croire que c'est possible. » Et c'est vrai, mais je vais vous en parler quand même, parce que la vie de cette bienheureuse Joséphine Bakita est absolument phénoménale. Elle a été enlevée à l'âge de 6-7 ans par des musulmans, trafiquant d'esclaves au Soudan. Elle a été esclave pendant une dizaine d'années, dans des conditions abominables. Elle a été sauvée par un Italien. Et elle est entrée dans une communauté en Italie, et elle est devenue bienheureuse, parce qu'elle connaissait ce que c'était que la misère, et elle a pratiqué une vie religieuse solide. Et le père Armand Gagné affirme avoir racheté, dit la presse, et libéré récemment 1050 esclaves soudanais, surtout des femmes et des enfants enlevés par des groupes dits paramilitaires, mais qui en fait sont des musulmans. Et il y a un groupe, en plus des trinitaires, qui s'occupe de ça, c'est Solidarité chrétienne internationale. Comme vous voyez, les chrétiens luttent dans l'amour pour libérer ces soudanais, qui sont souvent des chrétiens, et qui sont enlevés, comme ça, des catholiques, oui, qui sont enlevés, qui deviennent, par la force, des musulmans. Ils sont obligés quasiment, parce que sans ça, on ne les nourrit pas, on ne les aide pas. C'est tragique, et je dis les choses telles qu'elles sont. Alors, Solidarité chrétienne internationale est une organisation non gouvernementale, un ONG, comme on dit, qui est basée en Suisse, et qui a des ramifications un peu partout dans le monde. Et il y aurait toujours des dizaines de milliers d'esclaves. Vous savez, des dizaines de milliers d'esclaves, ça fait une assez bonne ville, ça. Dizaines de milliers de personnes. C'est une ville. Alors, dans ce pays d'Afrique de l'Est, oui, et c'est ce pays est déchiré par la guerre civile. Depuis quand ça date, ça, des esclaves, là-bas? Mais ça fait des centaines et des centaines d'années. Parce que la bienheureuse Joséphine Bakita, elle est morte, âgée, en 1947. Elle a été enlevée au siècle dernier. Et ça se continue sans cesse. Alors on compte surtout des chrétiens parmi ces esclaves, mais aussi des animistes. Il y a 5000 animistes à peu près dans le Nord qui se convertissent au catholicisme. Il y a des évêques, un archevêque, dans la capitale du Soudan. Mais vous allez me demander, où est-ce le Soudan? Eh bien, c'est au sud de l'Égypte. Et puis, à droite, sur la carte, il y a la mer Rouge, en haut, là. Un petit peu, 500 kilomètres de mer Rouge. Et puis, il y a l'Éthiopie. Et puis, au sud, eh bien, il y a différents pays, comme le Kenya, l'Ouganda, le Zaïre, puis la République centrafricaine. Puis, à gauche, il y a la Libye. C'est un pays immense. C'est 1 million de kilomètres carrés. C'est 29 millions d'habitants, à peu près comme au Canada. C'est un pays important. Et il se passe là des choses qui ne semblent pas nous émouvoir, si ce n'est quelques personnes à Montréal. Ce sont des catholiques d'origine égyptienne en majorité qui travaillent comme ça, ensemble, des femmes, pour essayer d'envoyer quelques dollars là-bas. Ils ont déjà réussi à envoyer 150 000 dollars en faisant des petits travaux. Mais ce qu'il faut, c'est que nous tous, et surtout nos gouvernements et les Nations Unies, arrêtent ce massacre épouvantable. Depuis 1995, Solidarité chrétienne internationale ont libéré plus de 5000 personnes au Soudan. Mais c'est rien, c'est une goutte d'eau dans la mer. La Congrégation des Pères Trinitaires que vous connaissez bien ici, établie au Québec, qui a été fondée il y a 800 ans pour enrayer l'esclavage, eh bien aujourd'hui, le Père Gagné ne peut que constater que les drames se répètent depuis 800 ans dans le monde. Surtout, il y a 800 ans, c'était pour arracher des esclaves aux musulmans. Et ça continue encore, c'est toujours ces musulmans intégristes, les musulmans qui ne sont pas vraiment fidèles à la pureté de l'islam, il me semble. Alors le père Gagné déclare, je trouve ça effrayant, surtout qu'avec des organismes internationaux humanitaires, on n'arrive pas à faire connaître ces situations. Bien, je vais essayer, père Gagné, si vous m'écoutez, de le faire gagner. Vous dites que c'est un des scandales de cette fin de siècle. Eh bien, on va parler. On va parler parce que c'est vraiment trop pénible. Et ça fait des années que je ramasse, moi, des articles, j'en ai depuis des années, sur ces enfants esclaves, que l'on rachète comme ça, en payant comme on payait autrefois. Nos ancêtres, il y a 8 siècles, payaient aux musulmans des sommes d'argent pour libérer. On connaît même souvent le nom des marchands, un marchand arabe dénommé Nur. On lui a offert 20 000 $ pour libérer quelques rares personnes. 58 esclaves, 20 000 $. Ça lui fait pour lui une bonne somme d'argent. C'est l'argent mal acquis d'une façon horrible, épouvantable. Et même il y a 3 ans dans le magazine Time, des journalistes ont fait des expertises. Des journalistes d'un journal de Baltimore aux États-Unis ont réussi, en payant 1 000 $, à libérer 2 jeunes enfants et les remettre à leur père qui les avait pas vus depuis 7 ans. 2 garçons de 10 et 12 ans. Quelle horreur! Vous direz, ces gens sont noirs, sont au sud du Soudan, c'est loin. Vous vous le direz pas en parole, mais ce sera peut-être derrière la tête. On est indifférent. Mais ce sont des catholiques, ne l'oubliez pas. Et ce sont des hommes qui appartiennent à une grande tradition de la Nubie. Ce sont des gens vraiment admirables. Monseigneur Ricard, un évêque américain, qui dit « Au cours de toutes mes visites en Afrique, je n'ai jamais vu de situation aussi tragique. Ces gens ont vraiment été ramenés à l'âge de pierre par les musulmans. » C'est moi qui ajoute « par les musulmans » parce que l'évêque n'oserait pas le dire. « C'est d'autant plus tragique que des personnes déjà complètement appauvries sont réduites à des conditions brutales, brutales. Et de voir ces gens forcés de vivre dans des conditions déshumanisantes provoque presque la colère. » Si je vous disais tout. Mais quand vous voyez la foi de ces jeunes garçons, esclaves, comme Abraham, 17 ans, aussi loin que je remonte dans mes souvenirs, il y a des combats. Nous voulons la paix, mais si les Arabes, musulmans, ne la veulent pas, nous les combattrons parce qu'ils veulent s'emparer de notre pays. Or, son ami, qui s'appelle Jean Mouma, 20 ans, partage le même espoir de paix, mais il est décidé, dit-on, à ne pas participer au combat. Il dit, c'est trop terrible, je suivrai les mots du Christ. Vous voyez la foi de ces jeunes, hein? Or, tout ça vient de ce que les Anglais ont établi il y a longtemps, un plan intensif de développement au Nord. Ils ont préparé là une élite dominante, capable d'assurer éventuellement la direction du pays. Et c'était des musulmans. Qui n'était pas noir. Tandis que le Sud était, pour ainsi dire, laissé à lui-même par les Anglais, puis sous-développé. Et le Nord a adopté progressivement une vision musulmane des choses, tandis que le Sud assistait impuissant à l'introduction d'un code civil soudanais basé sur la loi islamique, la charia. Ils ont souffert. Et ils souffrent encore de façon épouvantable. Alors, les chrétiens et les animistes du Sud, c'est-à-dire accusent le Nord de vendre des femmes et des enfants du Sud pour l'esclavage, de kidnapper des garçons soudanais pour les enrôler dans son armée, puis d'en faire des islamistes, et ils les convertissent, puis ensuite ils les envoient dans le Sud tuer les leurs. Or, qui est Joséphine Bakita, de son nom italien, Giuseppina, puisqu'elle s'est faite italienne. Giuseppina Bakita. Elle est née en 1869. Elle a été béatifiée le 17 mai 92. Et le pape a fait un appel, n'est-ce pas, recommandant vivement aux organismes internationaux d'assistance, de bien vouloir continuer, dit le pape, à apporter leur aide concrète vite, nécessaire et urgente. Il salue les gens qui sont venus du Soudan pour assister à cette béatification. De cette femme née en 1869 environ dans la région de Darfour au Soudan. Et sa famille est aisée, elle appartient à un groupe de noirs. Ils sont très noirs, hein, ces gens-là. Qu'on appelle les Dagiou. Elle est probablement née dans la religion musulmane, mais animiste. C'est-à-dire, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que des animistes font profession de foi musulmane, mais n'en connaissent pas les données, et demeurent animistes, en fait. Et c'est vers 6 ou 7 ans que Bakita est enlevée par ce qu'on appelle traditionnellement des négriers. Des êtres abominables qui s'emparent de ceux qu'on appelle des nègres. Et ce n'est pas dépéjoratif que de dire des nègres. On dit l'art nègre, on dit la pensée nègre, la littérature nègre. On a essayé de changer ça parce qu'on trouve ça désobligeant, mais je ne vois rien de désobligeant dans le mot en moi, personnellement. Et 5 fois de suite, elle est vendue sur les marchés d'esclaves. Elle passe d'un patron à l'autre. Et cette pauvre enfant que l'on a baptisée Bakita, c'est les négriers qui l'ont baptisée Bakita, qui veut dire la vénarde, la chanceuse. Parce qu'elle était incapable, quand elle a été capturée à 6 ou 7 ans, elle était incapable de dire son nom. Elle était plus capable de parler, elle était incapable de crier tellement elle avait peur. Et elle est soumise donc à des cruautés, à des sévices qu'elle nous a racontées dans une autobiographie écrite en 1910 alors qu'elle était religieuse. C'est, croit-elle, Dieu, la Sainte Vierge, sans qu'elle le sache, sans qu'elle ait la foi chrétienne, qui l'ont guidée vers la liberté. La liberté où qu'elle a trouvé à Khartoum, dans le nord, dans la capitale, où règne actuellement un chef intégriste de ce pays énorme, de 29 millions d'habitants, 1 million de milles carrés. C'est un agent consulaire italien qui s'appelait Callisto Lignani. Et pour la première fois de sa vie, désorienté et habitué à toutes les horreurs de la férocité humaine, cette pauvre fille, qui avait environ 16-17 ans, eh bien, elle se sent respectée et aimée, cette petite Bakita. Et elle va vous raconter, tout à l'heure, après que nous ayons écouté un peu de musique, elle va vous raconter elle-même ce qui lui est arrivé. Je vais le traduire de l'anglais. C'est tellement bouleversant, mais c'est très émouvant d'entendre une bienheureuse nous raconter sa misère alors qu'elle était, au fond, une petite noire du Soudan, animiste, qui perd tout, son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son village, ses traditions, sa vie. Nous allons écouter de Giacomo Antonio Perti, qui est mort en 1756, les extraits de des Lamentations. Hein. Le premier, c'est « Tradiderunt me, ils m'ont trahi ».
Thank you.
Voici donc l'autobiographie de cette bienheureuse Joséphine ou Giuseppina Bakita, une Soudanaise. C'est grâce à Madame Nicole Valiquette que j'ai ce texte, malheureusement en anglais, mais je vous le traduis au fur et à mesure. Donc, la bienheureuse Joséphine raconte deux petites filles qui cherchaient dans les herbes quelque chose à manger ont soudain remarqué deux étrangers qui s'approchent. L'un des étrangers dit à la plus vieille des deux, « Laisse ta petite amie aller dans les bois pour me chercher un paquet que j'ai oublié. Et durant ce temps-là, cours, cours, et elle te rejoindra rapidement. » Et alors, avec empressement, la plus jeune obéit, comme elle a toujours fait. Elle n'a que 6 ou 7 ans, elle ne comprend pas tellement au début. Mais alors, il n'y avait pas de paquet. Non, rien. Elle a marché, marché, elle s'est aventurée davantage dans la forêt, espérant pour le mieux. Mais tout à coup, elle a réalisé que les deux étrangers l'avaient suivie et que l'un d'entre eux s'en est emparé rudement par la main. Et il a sorti un couteau. Il dit, « Si tu cries, tu es morte. » Et il lui montre la lame du couteau. Il lui dit, « Dépêche-toi, suis-nous. » Pétrifiée de terreur, les yeux de l'enfant se sont agrandis et elle a commencé à trembler de tout son être. Elle parle d'elle-même, évidemment. Elle veut crier, mais elle est incapable. Elle veut formuler des mots, mais rien à faire. Sa voix est comme éteinte. Elle a peur, elle sanglote, et elle trébuche, alors que les hommes la poussent. Et après un certain temps, les étrangers s'arrêtent et lui disent « Quel est ton nom ?» Alors, dans l'état de choc dans lequel elle se trouve, elle est incapable de répondre, comme je vous ai dit tout à l'heure, et cet enfant, qui ne peut que les regarder, conserve un silence terrifiant. Ces hommes s'irritent, ils la poussent encore plus rudement, encore et encore, et alors ils lui ordonnent de parler. Mais elle est incapable. Finalement, le plus sinistre des deux hommes arrête le questionnaire puis lui dit, voici comment nous t'appellerons Bakita. Bakita, ça veut dire la chanceuse, la vénarde. C'est le bon mot pour toi, tu comprendras. Et la pauvre innocente, cette pauvre petite fille africaine sans moyens, aimerait bien être connue par ce nom, la chanceuse, la vénarde, mais qui est-elle? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il faut dire tout d'abord, comme je vous ai dit tout à l'heure, que le Soudan, c'est un grand pays d'1,2 million, c'est-à-dire, disons, 2,5 millions de kilomètres carrés, bordé, je vous le rappelle, par l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, à l'ouest, au sud, le Zaïre, l'Ouganda et le Kenya, puis à l'est, l'Éthiopie, puis un peu de mer Rouge, là, sur 500 kilomètres. La capitale est Khartoum, au nord. Il y a un Italien, un explorateur italien qui a visité le Soudan durant la seconde moitié du 19e siècle, Guglielmo Godio, qui a raconté que le peuple soudanais était un peuple cordial dans le sud du Soudan, qu'il a trouvé naturellement bon, hospitalier et loyal. Ce sont en grande partie des chrétiens qui sont chrétiens depuis près de 2000 ans. La Nubie a été christianisée au tout début. Le peuple qui vit dans le sud, comme ça, sont vraiment noirs. Dans le nord, à cause des interactions avec l'Égypte, le peuple a l'apparence plus arabe. En fait, l'histoire du Soudan est très étroitement liée à l'Égypte. Les anciens monuments découverts dans la région où Bakita a grandi nous démontrent bien l'influence de l'Égypte ancienne. Au 7e siècle, après avoir conquis l'Égypte, les Arabes musulmans, qui viennent d'être fondés par Mohammed, et qui sont des conquérants à cheval, avec couteau à la main, c'est une étrange religion, n'est-ce pas, qui s'est répandue à la fois par les en convainquant les gens de devenir musulmans, mais aussi en les convainquant de façon guerrière. Il faut bien le dire, c'est historique. Alors, les Arabes sont allés vers le sud, dans la Nubie, dans le sud du Liban. Ils ont établi un commerce d'esclaves, déjà, et qui dure donc depuis des siècles, depuis, mon Dieu, plus de 1300 ans, quoi. C'est inconcevable. En 1805, l'islam a imposé sur ce peuple conquis la misère. Et à un moment donné, est arrivé au siècle dernier un envoyé de Dieu, selon les musulmans, un Mahdi, dont le nom était Mohammed Ahmed Ibn Abdullah. Et il a laissé son ermitage sur une île d'Abba, sur le Nil Blanc, là. Puis il a entrepris la conquête du Soudan, encore une fois. Et en fait, il avait des ambitions énormes de conquérir le monde entier à la foi musulmane. Il prétendait avoir des visions, puis un pouvoir surnaturel. Et ce Mahdi, comme on appelle ces gens, remportait victoire sur victoire, et son triomphe l'amenait comme ça jusque chez les catholiques qui avaient établi des missions. Qui avait établi ces missions catholiques récentes? C'est le Monseigneur Daniel Comboni, dont je vous ai parlé le 10 octobre 97. Ah, quel homme admirable! Je vous avais dit qu'il était le père de l'Afrique catholique, Daniele Comboni. Et ces missions ont été rasées, saccagées jusqu'au sol. Les prêtres et les religieuses ont été faits prisonniers. Et ils avaient à choisir entre l'islam ou la mort. Ils ont tous déclaré leur désir de mourir plutôt que de renoncer à Jésus-Christ. Et ultimement, les missionnaires n'ont pas été exécutés, heureusement. Mais quand même, 4 d'entre eux sont morts à cause des mauvais traitements puis de la maladie durant 10 ans de captivité. Et ça, ce Mahdi, comme on dit, cette espèce d'homme à la guerre sainte, là, a achevé son projet de conquête du Soudan. Malheureusement pas pour lui, du monde entier. Heureusement pour nous. Il a été remplacé à sa mort par le calife Abdullahi, qui a été nommé comme son héritier et son successeur. Et ce calife Abdullahi a commencé son règne avec un pouvoir épouvantable de guerre et de destruction qui ont continué jusqu'en 1898, il y a 100 ans. Quand le pays a été amené à se joindre à l'Égypte qui était sous contrôle anglais. C'est là que les Anglais vont développer le nord aux dépens du sud. Et finalement, en 1956, le Soudan a obtenu son indépendance et est devenu la République du Soudan. Et le christianisme n'était pas complètement mort malgré toutes ces persécutions. Non, malgré toutes les menaces de mort. Et je crois bon de vous rappeler, si nous retournons à l'arrière près de 2000 ans, la Rome impériale a été responsable d'amener jusqu'à un certain point le christianisme dans cette partie du monde. Et les premiers évangélisateurs s'étaient enfuis d'Égypte et s'étaient enfuis plutôt en Égypte et au Soudan pour éviter la persécution, hein, sous la Rome ancienne, quand les chrétiens étaient dévorés par les bêtes, là. Et c'était prouvé historiquement qu'au VIe siècle, l'activité missionnaire était très bien organisée dans ce pays, au Soudan, en Nubie en particulier. Mais les envahisseurs musulmans, comme je vous ai dit tout à l'heure, ont tout enlevé. Et ils ont laissé derrière eux un désert abominable, et rien n'a pu survivre, sauf des ruines, des églises, des monastères, des cimetières, mais aussi la foi chez quelques-uns. Mais en perdant des guerres, l'Église, ultimement, a gagné à être vraiment beaucoup plus forte. Ce sont des franciscains qui n'ont pas tout à fait réussi au XVIIe siècle à rétablir tout ça, mais d'autres missionnaires sont venus et suivant le même idéal. et ils ont trouvé d'ailleurs à un moment donné des tombes de 22 jeunes missionnaires, des prêtres, qui témoignent de tout cela. Et au moment de sa mort, le missionnaire italien Francesco Aliboni a déclaré, « Mes frères, je meurs et je suis heureux de mourir, car voilà ce que Dieu me demande au moment présent. » Vous ne devez pas perdre courage. Non, ne perdez pas courage. N'oubliez jamais le but. Si un seul de vous me survit, eh bien, qu'il ne désespère pas et qu'il ne cesse pas. Dieu désire que notre mission d'Afrique se continue et que la conversion de l'Afrique à l'Évangile se fasse. Je meurs avec cette conviction. Et ce message a été rempli par Daniel et Comboni, comme je vous ai dit, et la mémoire de Bakita, la bienheureuse Joséphine Bakita en Afrique, renforce le courage de ces des gens qui viennent des mêmes peuples du sud du Soudan actuellement, et le christianisme jaillit et se convertit jusqu'à 5000 animistes par année au catholicisme. Mais qu'est-ce qu'elle a raconté, cette petite fille qui est née en 1869 dans le sud du Soudan et qui a été elle-même esclave? Eh bien, elle raconte, ma famille, vivait au cœur de l'Afrique, au sud du Liban, du Soudan, dans un village qui s'appelait Olgassa, dans la région de Darfour. Il y avait là mon père, ma mère, j'avais 3 frères et 3 sœurs. J'avais même une sœur jumelle, mais je n'ai pas entendu parler d'eux depuis, ni de mes parents, ni de mes frères et sœurs, depuis le jour où j'ai été kidnappé, il y a 35 ans. Elle écrit ça en 1910. Un jour, ma mère a décidé de s'en aller au champ, car nous avions une plantation et des troupeaux. Les troupeaux sont extrêmement importants dans cette civilisation, c'est le cœur de leur civilisation, les troupeaux. Elle dit, je suis allé là, et alors que j'étais dans les champs, je vous ai raconté ça un peu tout à l'heure, n'est-ce pas, des marchands d'esclaves sont venus et se sont emparés d'eux. Et elle dit, je me souviens encore comment ma mère criait et combien de larmes elle a versées dans des occasions comme celle-là. Mon père, le soir, et les villageois revenaient à la maison, mais ils ont entendu ce qui est arrivé, j'en suis sûr. Et je suis sûr que mon père a dû rager de désespoir, car cela arrivait de temps en temps. Et sans hésitation, et il s'était armé une autre fois, mais ma sœur qui avait été enlevée cette fois-là, n'est jamais revenu. Alors, c'était la deuxième enfant qui était prise comme esclave dans ma famille. J'étais la deuxième. Un matin, alors qu'il était, j'étais encore bien jeune, 6 ou 7 ans, eh bien, je suis sorti après le petit déjeuner, puis là, j'ai rencontré ces deux hommes qui nous ont proposé d'aller chercher un paquet dans le bois. Et puis, j'ai essayé de crier quand j'ai été capturé, mais je ne pouvais pas. Ils m'ont appelé Bakita, Bakita, the lucky one, la chanceuse. Et j'étais violemment entraîné dans l'épaisseur de la forêt, dans des sentiers qui n'existaient pour ainsi dire pas. Et j'étais forcé de marcher jusqu'au soir. Je me suis senti extrêmement fatigué. Mes pieds et mes jambes saignaient, car il y avait beaucoup de bosquets épineux qui me déchiraient la peau. J'éclatais en sanglots, mais ça ne rejoignait pas le cœur de ces hommes cruels. Et alors qu'on marchait et qu'on marchait, nous sommes arrivés à un jardin de melons d'eau. Alors, ils en ont pris, et ils en ont mangé, ils ont voulu m'en donner, mais j'étais incapable d'avaler quoi que ce soit. bien que j'avais vraiment soif. Tout ce que je pensais, ma famille. Et j'ai commencé à appeler ma mère et mon père. Mon cœur se déchirait. C'est impossible de décrire en mots ce que je ressentais, assis sous ce temps. Mais personne ne pouvait m'entendre, et ces deux Arabes m'ont maltraité, m'ont forcé de garder le silence. Ils étaient extrêmement durs, et j'avais peur. Bien que j'étais exténué, et bien que j'ai faim, ils m'ont forcé à marcher encore, marcher durant toute la nuit, sans s'arrêter. Au lever du jour, nous avons atteint un village, leur village. J'étais complètement épuisé. Il n'y avait pas de lit. Il n'y avait même pas un sac pour moi. Et j'ai dû me coucher par terre. J'ai été jeté comme un morceau de bois. On m'a lancé un pain noir et on m'a dit de faire bien attention qu'ils fermaient la porte à clé, ils apportaient la clé. Et j'ai dû rester dans cette chambre pour ainsi dire à la noirceur pendant un mois. Il n'y avait qu'un tout petit trou dans le mur et ça me donnait un tout petit peu d'air. J'étais misérable. J'aurais voulu manger, et j'étais incapable. C'est difficile de décrire la souffrance que l'on ressent. J'expérimente encore, après 35 ans, l'angoisse de ces longues heures, où je ne pouvais que crier un peu, dans la solitude. Je suis tombé par terre, je restais là, dans la stupeur. Mon imagination me transportait parmi ma famille. Un matin, la porte s'est ouverte, comme d'habitude, et mon maître est resté là. Il y avait là un autre homme avec lui, qui était un marchand d'esclaves. Il m'a acheté, et il m'a ajouté à une longue file d'autres esclaves. Trois hommes, trois femmes, une jeune fille, et un peu plus vieille que moi et d'autres. Et sans délai, nous sommes partis. Nous avons marché durant 8 jours, sans nous arrêter, parfois pour s'arrêter un peu la nuit. Quand nous avons atteint un nouveau village, eh bien, il fallait acheter d'autres esclaves et toujours agrandir cette filée. Nous avons marché. Si l'un tombait, on le laissait mourir là. Pauvres esclaves. Nous, les petits, nous n'avions pas de chaînes comme les adultes. Nous marchions à l'arrière de la caravane avec les maîtres qui nous frappaient. Évidemment, c'était pour nous empêcher de nous enfuir. Nous, les enfants, nous aurions été enchaînés durant le jour, mais nous ne l'étions que le soir. À la fin, nous avons atteint un marché d'esclaves et nous sommes rentrés dans une grande pièce et nous avons attendu que nous mette en vente. Nous étions les deux enfants laissés derrière dans la chambre et finalement le maître nous a laissés pour prendre soin de d'autres choses. Et c'est comme ça que Bakita décrit ce qui est arrivé par la suite. Nous étions seuls et nous n'étions pas enchaînés. Alors nous nous sommes dit que voilà l'occasion de nous enfuir. Et nous nous sommes enfuis dans la campagne. Et puis, au coucher du soleil, nous avons remarqué qu'il y avait des huttes. Alors nous étions bien contents. Alors un homme s'est approché de nous, très gentil, heureusement. Et puis, il nous a amenés avec lui, mais nous avons été malheureusement gravement surprises. Car il nous a attachés tous les deux, avec des chaînes, et il nous a ordonné de nous coucher, et qu'il viendrait plus tard. Et puis il est venu quelques jours plus tard, avec un marchand d'esclaves encore. Et puis nous avons été vendus une deuxième fois. Alors nous étions encore esclaves. Et pour une ou deux semaines, nous avons marché. Et finalement, nous avons atteint une ville, et nous avons été conduits au chef de l'endroit, qui était un homme riche, et nous avons été comptés parmi les esclaves. Et ma petite amie était la servante des deux filles, qui heureusement nous ont aimés immédiatement. Et le maître, pour lui, avait l'intention de nous donner à son fils quand il se marierait. Et dans cette grande maison, nous avons été assez bien traités. Et nous n'avons manqué de rien. Mais ça n'a pas duré. Un jour, j'ai fait une erreur qui a irrité le fils de mon maître et il m'a battu presque à mort. J'ai couru dans une autre chambre où il y avait ses sœurs. J'ai eu peur, terriblement peur. Il y a des esclaves qui m'ont amené un peu plus loin et qui m'ont étendu sur un petit tapis. Et je suis resté là plus d'un mois, épuisé. Évidemment qu'elle a eu la chance aussi d'être vendue à nouveau. Et puis les chaînes ont été enlevées lors d'une grande fête musulmane, alors que tous les esclaves devaient être libérés en principe, mais ce n'était pas le cas. Et les esclaves dormaient dans une seule grande pièce. Nous n'avions pas de nourriture avant le milieu de la journée. Si quelqu'un tombait malade, eh bien, on ne s'en occupait pas. Elle ou lui était laissé à lui-même ou à elle-même. Personne ne s'occupait de l'aider. Personne n'avait de cœur. Et quand l'un d'entre nous mourait, son corps était simplement laissé dans des champs et envoyé dans les déchets. Pour vous donner un exemple, un jour, par pure chance, nous avons été présentés alors qu'un général se disputait avec sa femme. Et pour se venger, il a ordonné à deux soldats de nous jeter sur le sol et de nous battre. Les soldats ont obéi aux ordres avec leur plus grand dévouement à leur maître, et ils ont utilisé une telle force que tous deux, nous avons été laissés sur le sol dans notre sang. Je me souviens comment les coups répétés sur nos côtés et sur nos cuisses allaient si fort dans notre peau que notre chair s'arrachait. À la fin, nous sommes demeurés comme ça 2 mois, incapables de bouger. Nos souffrances étaient telles que on a placé sur nos plaies du sel pour former des marques. L'idée, c'est que le sel pénétrerait si creux dans nos plaies que ça les empêcherait de se guérir et laisserait des marques pour toujours. Et la première victime de ce traitement abominable a été transportée au loin. Et quand c'était mon tour, j'ai crié. Je ne pouvais endurer ce sel sur mes plaies. J'étais baigné dans mon sang et j'ai été transporté finalement. Et quand j'ai repris conscience, j'ai vu près de moi deux de mes pauvres amis qui avaient subi le même traitement. Et durant plus d'un mois, nous avons été condamnés à ne pas pouvoir bouger. Nous étions vraiment incapables de bouger. Cela faisait tellement mal et nos vêtements séchaient contre le sang. Et ça nos plaies s'ouvraient à nouveau. Oh, il me semble que je vois maintenant à travers tout ça un miracle de Dieu, si je ne suis pas morte, car, ô Dieu que j'ai appris à connaître plus tard, nous destinait de meilleures choses. Après plusieurs mois d'absence, le général a décidé de nous retourner à Kordofan. Il avait décidé de se débarrasser de nous. Et finalement, après plusieurs jours, dans une caravane de chameaux, nous sommes arrivés à la capitale, Khartoum, où nous sommes reposés dans un hôtel. Et pendant ce temps-là, le mot s'est répandu qu'il y avait des esclaves à vendre. Et un jour, le général a reçu un visiteur, et c'était l'agent du consul italien au Soudan. Son nom, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était Signor Callisto Lignani. Et on m'a demandé d'apporter une tasse de café à cet homme. Et il n'a pas cessé de me regarder. Et il me regardait intensément, et des pieds à la tête. Il ne pouvait pas imaginer vraiment ce qu'il arriverait par la suite. Il a demandé de m'acheter. Il m'a rendu à la liberté. J'ai réalisé seulement le lendemain matin que le général turc avait ordonné que je suive la servante de ce consul qui est venue me chercher. Et l'excuse qui était donnée, c'était pour l'aider à transporter un paquet. Et c'était la cinquième fois que j'étais vendu. Les meilleures choses s'en venaient. Dieu m'attendait. Je ne le savais pas. Dieu m'attendait. Traduit en justice, lui, condamné à mort. Cette petite a été condamnée à l'esclavage. Je vous rappelle qu'elle est née. Giuseppina Bacchita est née en 1869, dans le sud du Soudan. Et c'est en 75-76 qu'elle a été kidnappée par des marchands musulmans, d'esclaves, donc à 6-7 ans. Elle a été finalement, en 81, achetée par un général de l'armée turque. 2 ans plus tard, c'est le consul, l'agent du consul d'Italie. Donc, elle a été dans l'esclavage pendant environ 8 ans, 9 ans. Et 2 ans plus tard, le consul finit par l'amener en Italie, car il veut vraiment la libérer de la misère. Il la présente à Madame Turina Michieli. Et elle vit dans cette famille pendant quelque temps. Elle apprend l'italien très bien. Elle a environ 16-17 ans. Et puis, la signora Michieli doit retourner en Afrique, elle refuse. Elle préfère continuer à s'instruire auprès des sœurs canossiennes, qui sont des sœurs de charité. Et quand elle a 20 ans, un peu plus, donc 2 mois plus tard, en janvier 90, là, elle reçoit le sacrement de baptême, puis le sacrement de confirmation, puis la Sainte Communion, toujours le même jour, le 9 janvier, des mains du cardinal Agostini, qui est patriarche de Venise. Comme le pape Jean XXIII et le pape Jean-Paul Ier ont été patriarches de Venise, vous vous souvenez, hein? Alors ça lui arrive donc ça à l'âge de 20 ans. En 1893, le 7 décembre, elle entre au noviciat des Filles de la Charité, de celles que l'on appelle les sœurs canossiennes, elles viennent de Canossa, en Italie. Elle a 24 ans. 3 ans plus tard, le 8 décembre, elle prononce ses vœux temporaires à Vérone. Vérone, c'est la Roméo et Juliette. Et puis, en 1927, le 10 août, elle prononce ses vœux, pour toujours, à Venise. Et ça a pris un peu de temps, comme vous voyez. En 20 ans plus tard, elle, le 8 février, c'est l'anniversaire aujourd'hui, elle meurt au couvent de Schio, S-C-H-I-O, à l'âge de 77 ans, après 53 ans de vie religieuse. En 1969, au mois de septembre, ses restes sont exhumés et transférés du cimetière municipal à la chapelle de l'Institut des Sœurs de la Charité à Schio, via Fusinato. Si vous voulez aller à Schio, c'est dans la région de Venise. Et en 92, le 17 mai, qui est l'anniversaire, je vous le rappelle, de la fondation de Montréal, qui a été fondée en 1642, Ville-Marie, eh bien, c'est la béatification de Sœur Joséphine, ou Giuseppina, Bacchita, par le pape Jean-Paul II, sur la place Saint-Pierre. Elle raconte, Sœur Bacchita, que le 7 décembre 1893, elle est entrée au noviciat de l'Institut à Venise, où elle avait été instruite, et après un an et demi, elle a été appelée à Vérone, n'est-ce pas, pour recevoir l'habit. Et pour elle, ça a été une très, très, très grande joie de recevoir l'habit. Quelques mois avant la fin de cette troisième année de noviciat, elle est retournée pour prononcer ses vœux. Et ça a pris place le 8 décembre, le jour de la fête de l'Immaculée Conception, 96. Puis elle dit, c'est ainsi que Dieu a béni le désir profond que j'avais et que les religieuses avaient. Et la sœur qui s'est le plus occupée d'elle est morte quelques jours plus tard. Ça a été pour elle une grande douleur. C'était un peu comme si elle perdait sa mère. Et elle dit que pendant 14 ans de vie religieuse, les premières années, elle a apprécié de plus en plus la bonté de Dieu pour elle-même. Elle dit que « I came more and more », je suis allé de plus en plus, j'arrivais de plus en plus à apprécier l'amour de Dieu pour moi. Et je demande à toutes les religieuses de la terre qui liront mes mémoires de remercier ce Seigneur généreux qui a été si généreux pour moi et de lui demander de continuer de répandre ses grâces et qu'il m'aide à les répandre quand je serai au ciel, afin de lui rendre hommage. Ce Soudan est toujours dans la misère, comme je vous ai dit au début de l'émission. C'est quelque chose d'épouvantable. Vous savez que les secours qui sont portés là-bas sont portés à condition que les Soudanais deviennent musulmans. Vous pouvez le lire dans la revue Univers, juillet-août 1998. Le gouvernement islamique voit le travail des catholiques d'un mauvais œil, comme l'écrit l'archevêque de Khartoum, Mgr Gabriel Wako. Et parce que le gouvernement islamique repousse de plus en plus, dit-il, nos gens vers le désert. Et plus nous les suivons, bien plus nous essayons de construire de petites chapelles pour en prendre soin, pour prendre soin de leurs âmes. Ces évêques et ces prêtres vivent dans la misère avec ce peuple misérable. Et l'évêque dit, en Europe, on est maintenant là, comme au Québec d'ailleurs, et on ne sent plus de compassion. Et on nous dit, ne nourrissez pas trop d'espoir. Après tout, vous n'êtes pas une priorité pour nous. Ce message est décourageant. Et vous savez que dans le sud du Soudan, il y a du pétrole et les Arabes s'en emparent dans le nord et ne laissent rien aux catholiques du sud qui sont noirs. J'aurais tant de choses à vous dire sur ce peuple misérable, mais nous pouvons prier la bienheureuse Bacchita avec l'ouvroir de Notre-Dame des Apôtres dont je vous ai parlé, qui vienne en aide à la population soudanaise et qui travaille d'arrache-pied pour aider ce peuple oublié, ce peuple qui souffre.